talmudique. Rav Yehuda dit au nom de Rav, quand Moïse monta vers les hauteurs, il trouva le saint béni soit-il assis, qui attachait des couronnes sur les lettres de la Torah. Moïse s'adressa à Dieu et lui dit, « Maître de l'univers, qui t'empêche de donner la Torah telle qu'elle? Pourquoi tous ces ajouts ?» Dieu lui dit, « Il y a un homme dans le futur, dans plusieurs générations, Akiva ben Yosef est son nom, et qui, dans le futur, interprétera chacune de ces couronnes, desquelles il déduira Tilin, Tilin, Shel Alachot, des montagnes et des montagnes de loi. » Moïse dit devant Dieu, « Maître de l'univers, montre-moi cet homme. » Dieu lui dit, « Retourne-toi en arrière. » Et Moïse se retourna. Il alla s'asseoir à la 8e rangée dans la salle d'études de Rabbi Akiva, et il ne comprenait pas ce qu'il disait. Moïse se sentit traversé par une grande faiblesse. Quand Rabbi Akiva arriva à un certain point de la leçon, ses élèves lui dirent, « Maître, d'où tires-tu cet enseignement ?» Rabbi Akiva leur répondit, « C'est une loi qui remonte à Moïse depuis la révélation au Sinaï. » Quand Moïse entendit cela, il retrouva ses esprits et toute son énergie. Moïse s'en retourna encore devant le saint béni soit-il et lui dit, « Maître de l'univers, tu as à ta disposition un tel homme d'une telle qualité et c'est par moi que tu choisis de donner la Torah ?» Dieu répondit, « Shtok, kar alab machashava, tais-toi, c'est ainsi que cette pensée s'est présentée devant moi. » Moïse dit encore, « Maître de l'univers, tu m'as montré la manière dont Rabbi Akiva enseignait, montre-moi maintenant sa récompense. » Dieu lui dit, « Retourne-toi encore en arrière. » Moïse se retourna encore une fois dans le futur et vit que les Romains pesaient la chair de Rabbi Akiva dans une boucherie, car Rabbi Akiva avait été torturé à mort par les Romains. Moïse dit à Dieu, « Maître de l'univers, j'ai vu son enseignement. Est-ce là sa récompense ?» Dieu lui répondit, « Shtok kar alab machashava, tais-toi, c'est ainsi que cette pensée s'est présentée devant moi. » Voilà l'une des histoires talmudiques les plus célèbres de tout le corpus talmudique. Quel est le rapport entre l'innovation et la modernité? L'innovation provient-elle nécessairement d'une césure? Ne s'inscrit-elle pas aussi dans une forme de continuité, comme le suggère l'histoire que je viens de lire? Pour approfondir toutes ces questions, j'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui David Bannon, que les auditeurs connaissent bien et qui vient de faire paraître un ouvrage justement intitulé « Judaïsme et modernité », sous-titré « Confrontation et interlocution ». David Bannon, bonjour.
Bonjour.
David Bannon, vous êtes professeur émérite de l'Université de Strasbourg et membre de l'Institut universitaire de France. On vous doit une dizaine d'ouvrages remarqués et remarquables consacrés à la pensée juive et vous êtes aussi traducteur de l'hébreu et en particulier de l'œuvre de Yeshaya Leibovitz. Vous êtes depuis 7 ans en Israël, où vous avez enseigné à l'Université hébraïque de Jérusalem pendant 5 ans et où vous enseignez maintenant à l'Université Bar-Ilan. C'est un jour faste aujourd'hui, car nous fêtons à la fois la fête de Shavuot, qui tombe 50 jours après la Pâque juive, et la Pentecôte chrétienne, qui tombe 50 jours après les Pâques chrétiennes. Deux fêtes qui ont deux sens spirituels différents, mais dont les enjeux épistémologiques ne sont pas si éloignés l'un de l'autre. La fête de Shavuot est une fête agricole, où dans les temps anciens, on apportait au temple une offrande de la nouvelle récolte de blé. Mais Shavuot, c'est aussi, et en même temps, la fête de la révélation, la fête du don de la Torah au Mont Sinaï. Pour les commentateurs, je pense au Kli Yakar par exemple, les deux sens de cette fête se rencontrent dans l'expression « Veikraftem mincha chadasha ladonai »« Vous apporterez une offrande nouvelle ». Tout se passe comme s'il ne pouvait y avoir de réception de la Torah sans nouveauté. Le chadash, le chidush, la nouveauté, l'innovation appartiennent de manière quasi ontologique à la loi révélée. Nous voilà, David Bannon, au cœur de la question de la modernité. David Bannon.
Oui. C'est d'abord une grande question. Est-ce que l'innovation provient d'une césure? Est-ce que elle ne s'inscrit pas dans une forme de continuité? Je pense que on ne doit pas la voir en termes de rupture, mais en termes de suture. Et vous savez très bien que Durkheim, celui qui a institué la sociologie moderne, a écrit son premier livre qui s'intitule « Les formes élémentaires de la vie religieuse ». Et s'il fait des religions identifiables dans leurs institutions historiques, des phénomènes sociaux voués à la disparition parce que c'était dans l'air du temps, ils n'en soulignent pas moins que c'est dans le religieux que la société trouve l'essentiel de son identité et de son lien social. Et nous le savons par l'étymologie. Religio, c'est religare, c'est lié. Et donc, on ne peut pas séparer le religieux du social. Et c'est pourquoi, moi, je ne parle pas en termes de rupture, mais je parle en termes de suture. Mais je vais revenir à votre introduction, et notamment, en tout cas, à ce que vous avez dit de la signification agricole de l'offrande de la nouvelle récolte de blé. Pourquoi une offrande de la nouvelle récolte de blé telle qu'elle nous est prescrite ici dans le livre des Nombres, au chapitre 28, verset 26. On nous dit « Vous apporterez une oblation végétale nouvelle le jour de la Pentecôte » et Rachi nous dit « À Shavuot, le jour de la Pentecôte, on apportait les prémices de la récolte de blé, et non pas, comme à Pessah, les prémices de la récolte d'orge. Parce que la récolte d'orge est ce que dit Rashi aussi, « ma'achal behema », c'est-à-dire on le donne tel qu'il est, c'est un produit naturel, et on le donne tel qu'il est comme nourriture aux animaux, tandis que là, c'est un travail qui sert... La récolte de blé est transformée en pain, c'est-à-dire qu'il y a un processus d'élaboration de l'humain de ce travail, de ce produit qui est un produit naturel. Et dans ce processus d'élaboration humaine qui transforme le blé en farine et la farine en pâte et la pâte en pain, eh bien, c'est la même chose que font justement les humains avec la parole de Dieu. Eh bien, ils font une élaboration, mais à partir de cette parole qui est donnée de manière brute, de manière compacte, eh bien, ils drainent, ils tirent la halakha, ils tirent la loi pour nous, modernes, aujourd'hui, comme ils l'ont tiré dans les temps anciens.
Alors, cette magnifique interprétation que vous nous donnez au nom de Rashi a un élément extrêmement important qui est celui du temps. Parce que ce pain que l'on va avoir, c'est toujours, je dis, le pain, c'est de la farine, plus de l'eau, plus du levain, plus du temps. C'est-à-dire qu'il faut le temps de la patience, il faut, pour que le sens, que l'on puisse comprendre le sens des textes, ce n'est pas dans l'immédiateté de la réception, mais dans, comme vous le dites très très bien, dans l'élaboration du sens. Alors, à propos de cette élaboration du sens, dans les premiers chapitres de votre livre, vous évoquez un auteur que l'on cite moins aujourd'hui, et qui pourtant a apporté énormément à la question de l'interprétation des textes littéraires et que vous semblez nous inviter à redécouvrir aussi pour repenser le judaïsme. Il s'agit de Eric Auerbach et en particulier de son grand œuvre Mimesis. J'ai lu ces chapitres de votre livre comme un véritable cadeau et comme une nouveauté dans la pensée contemporaine, une façon de rappeler que parfois le nouveau est un retour à l'ancien et à certaines œuvres oubliées qui n'ont rien perdu de leur talent et de leur saveur pour nous aider à penser avec subtilité. Qui est Eric Auerbach, David Bannon?
Eric Auerbach est un juif qui est né en Allemagne au tournant du siècle et qui a d'abord fait des études de droit, comme c'était dans la tradition familiale. Ensuite, il a fait encore un doctorat en philologie romane. Et comme il avait devancé l'appel pour s'engager dans l'armée allemande pour la Première Guerre mondiale, et il a été blessé, alors on l'a pas révoqué en 33. Il a fallu attendre 35 avec les lois de Nuremberg pour lui dire « tu n'as plus rien à faire chez nous ». Et lui a commencé à partir de ce moment-là, alors qu'il se définissait comme prussien de confession mosaïque a commencé un retour vers le judaïsme. Ce retour vers le judaïsme a pris deux formes. La première forme, c'est que il a écrit un essai, un grand article sur la notion de figura, c'est-à-dire la notion de figure et de préfiguration, et il a essayé de montrer dans cet article que on ne pouvait pas séparer l'Ancien Testament du Nouveau Testament. Que c'était impossible, et que c'était comme des frères siamois, et que si jamais on faisait l'opération, eh bien, il dit que on ne sait pas qui restera vivant des deux. Donc, il quitte l'Allemagne, il trouve finalement un poste en Turquie, c'est là qu'il passe toute la guerre, et c'est pendant cette période de guerre, alors qu'on voulait, dans son pays natal, éradiquer les juifs de la culture allemande, lui réfléchit au moyen de dire « nous sommes emmanchés, on peut nous tuer, on peut nous exterminer, mais on ne peut pas nous extraire de la culture européenne ». Et c'est comme ça justement qu'il écrit Mimesis, c'est le premier chapitre de Mimesis, c'est justement un chapitre extraordinaire qui s'appelle « La cicatrice d'Ulysse » et qui compare le chapitre 19 de l'Odyssée à la ligature d'Isaac, au chapitre 22 de la Genèse.
Moi j'ai vu dans ce texte quelque chose de tellement lumineux que je me suis dit que cela devrait être proposé à tous les amoureux de la littérature et à tous ceux qui s'intéressent aux questions d'interprétation. Quelles sont les grandes lignes de cette opposition entre Homère et la Bible, David Bannon?
Bien sûr, il y a opposition. Mais d'abord, il y a une chose qui frappe le lecteur de ce chapitre, c'est que l'Europe, c'est la Bible et les Grecs. Ça, c'est déjà dès l'abord. On ne peut pas éliminer une des deux racines de l'Europe. Ensuite, la manière dont chacun aborde le récit dans cette civilisation, la civilisation grecque et dans la civilisation juive, est différente. Dans la civilisation grecque, on voit que la servante d'Ulysse, Autolycos, quand il rentre, elle ne le reconnaît pas, mais elle lui lave les pieds comme c'était dans la tradition ancienne, et elle se rend compte qu'il a une cicatrice et elle le reconnaît à partir de la cicatrice. Et là, il y a un flashback où elle raconte la scène de chasse où Ulysse a été blessé et par cette cicatrice, elle le rencontre. Donc, il y a là un retour en arrière avec un récit qui donne tout au premier plan, qui ne laisse rien dans l'ombre. Tous les détails sont là de cette scène de chasse. Dans la ligature d'Isaac, ce n'est pas la même chose. Dans la ligature d'Isaac, le récit est plus dense, plus ramassé, plus compact. Il y a des non-dits, mais ces non-dits ne sont pas là parce qu'il y a des accros dans la trame narrative. Ces non-dits sont voulus, c'est-à-dire ils essayent de pousser le lecteur à imaginer ce qu'il y a dans ces blancs, ce qu'il y a dans ce relâchement de la trame narrative. Et on voit bien que ce sont deux manières totalement différentes. L'une est tournée vers le passé, l'une est tournée vers le mythe, l'une se sert du flashback et décrit tout au premier plan, tandis que l'autre a un texte beaucoup plus ramassé et voit les choses de manière à laisser le lecteur compléter le texte et interpréter justement ces blancs, ces non-dits, ces replis du texte où se cache une partie du sens.
Arnold Schoenberg, concerto pour violon opus 36 de 1936, au violon Zvi Zeitlin, à la direction Raphaël Kubelik. Si j'ai choisi, David Bannon, de faire entendre du Schoenberg ce matin, en ce jour de Shavuot, c'est d'une part parce que vous lui consacrez un chapitre dans votre livre, et d'autre part parce que ce n'est pas une musique facile, on est en train de l'entendre, c'est pas une musique évidente pour l'oreille, une façon de souligner que l'innovation a besoin de temps pour pouvoir être entendue, et vous l'avez signifié par l'exemple de la fabrication du pain tout à l'heure, elle a besoin de temps pour être admise, et ceci, c'est important pour notre propos, pour devenir institutionnel. C'est une problématique qui est au cœur de votre livre et des réflexions que vous consacrez à l'un de vos maîtres, Yishaya Leibovitch, qui fut très sensible à ces questions de l'évolution et de l'innovation, en particulier dans le monde de la halakha juive. Vous écrivez à propos de Leibovitch, parce que ce sont des questions sans précédent pour le corpus halakhique, pour la loi, il appelait à faire preuve d'audace et d'imagination pour légiférer. Qu'entendait-il précisément par légiférer, David Bannon ?
Eh bien, d'abord, il entendait une chose principale. Pour lui, la halakha n'est pas dysfonctionnelle. La halakha peut, la Torah en général, peut générer de l'institutionnel. En deux mots, il dit que on ne peut pas aujourd'hui bâtir un État où certaines personnes respectent le Shabbat sur le compte de certaines autres personnes qui transgressent le Shabbat. Impossible, il dit, il faudrait oser. Il faudrait avoir le courage de dire « Ceux qui travaillent dans les réseaux vitaux de l'État, ceux-là ne transgressent pas le Shabbat, même si ce sont des religieux qui respectent le Shabbat pendant tout le reste de l'année. » Donc c'est devant ce qu'il pensait être un Israël désionisé et déjudaïsé, où on parle comme aujourd'hui d'israélianité à la place de judéité, où on est dans l'ère des postes, post-sionisme, post-judaïsme, post-modernisme, etc., etc., lui disait, on n'a pas encore réfléchi, non pas comme on le fait aujourd'hui, à donner une place de la religion au sein des institutions étatiques. Au contraire, il faut penser quelle place a l'État dans la religion juive ? Et ça change toute la perspective.
Voilà, il parlait de méta halakha, une idée qui est le fait que c'est ça légiférer, c'est se mesurer au remaniement de la halakha, de la loi juive, que dictent les bouleversements provoqués par les conditions politiques, sociales, nouvelles. Car la halakha, disait-il, et vous le citez, n'est pas un système de loi divine, c'est une loi révélée, la Torah de Dieu qui a été confiée à l'élaboration humaine. C'est-à-dire que les hommes, comme vous le dites, peuvent oser, doivent avoir l'audace de légiférer, c'est-à-dire de proposer quelque chose de complètement nouveau.
Oui, alors c'est vrai. Lui n'était pas pour faire une réforme et se débarrasser de certains commandements qui nous paraissent difficiles à réaliser dans notre monde moderne. Ce n'était pas justement ni sa vision des choses, ni son objectif, ni sa conception. Pour lui, il fallait se mesurer. Il fallait se mesurer et il faut se mesurer aux questions qui sont des questions radicales, par exemple la question du peuple. Pour lui, la question du peuple est la question la plus importante à laquelle se confronte le peuple juif après la création de l'État d'Israël. Est-ce qu'il y a une continuité de ce peuple ? Est-ce qu'il y a une israélianité à la place de la judéité ? Est-ce qu'on est dans une rupture ou dans une suture ? Tout ça, on n'a pas encore réfléchi à ces questions-là. Et ces questions doivent être abordées du point de vue, justement, de la halakha, à l'intérieur même de la démarche halakhique.
Alors justement, je vais vous donner encore peut-être un autre exemple qui va nous inviter à réfléchir. Rashi fut à Troyes au XIe siècle, un des commentateurs les plus connus de la Torah et du Talmud, vous en avez parlé au début de l'émission. Sa femme et ses trois filles, comme l'immense majorité des femmes dans les générations qui suivirent, sont restées dans l'ombre, plongées dans le silence d'une tradition qui voyait comme une exception l'étude des textes pour les femmes. Et pour la première fois en France, les 16, 17 et 18 juin prochains, la Maison Rashi de Troyes organise un congrès intitulé « Les filles de Rashi » afin de redonner la parole à ces femmes pour se réapproprier une tradition qui est pleinement la leur. Il y aura des femmes docteurs en Bible, en Talmud, en Midrash, en loi juive, des philosophes, des sociologues, des rabbines, des enseignantes de toutes les tendances du judaïsme venant de très nombreuses parties du monde. Une occasion formidable, me suis-je dit, de donner une place concrète à cette pensée de l'innovation halakhique dont nous venons de parler et que Leibovitch appelait de ses voeux, une façon de donner une réalité à cette formule Leibovitch que vous avez évoquée. Légiférer signifie affronter les questions décisives de notre génération. Qu'est-ce que vous en pensez, David Bannon, de cette initiative?
En tout cas, une belle initiative. Une belle initiative, je dois dire que la première fois que Leibovitch avait évoqué ce néologisme de méta-halakha était justement dans une conférence qu'il a donnée et qui s'appelle « La place de la femme dans la société israélienne ». Et il a dit d'abord qu'il faut ouvrir l'étude des textes rabbiniques, des corpus rabbiniques aux femmes. Et ça a été fait depuis, je pense que c'était le premier à l'avoir formulé de cette manière tellement radicale, et ça a été fait. Donc, il dit, puisque l'étude est ce qui valorise le plus la place de l'homme ou de l'être juif dans la société juive, alors, en ayant accès à l'étude, la femme sera valorisée autant, si ce n'est plus que l'homme, parce qu'elle va avoir justement un regard neuf sur des questions qui, peut-être, trouveront des solutions.
Donc valoriser et en même temps donner un statut égalitaire qui,
égalitaire.
Le pense et en tout cas on l'espère, peut déboucher sur une égalité de droit liturgique. Ce qui est beau aussi chez Leibovitch, dans cette façon de légiférer, qui est véritablement une manière très audacieuse. Il a osé dire les choses de manière extrêmement claire. Je pensais aussi à sa sœur Nechama Leibovitch, et je pensais justement que votre travail, et cela se ressent vraiment bien dans votre livre, dans vos réflexions, vous qui mettez en valeur l'école de Paris. Parmi cette école de Paris, il y a eu justement cette volonté de mettre à égalité la place des hommes et des femmes, et je pensais à cette formidable philosophe que fut Eliane Amadolevi-Valency, et je pense que cela fait partie de cette méta-halakha, si vous voulez, en tout cas, de symbole de cette méta-halakha, David Bannon.
Oui, bien entendu, je pense que l'école de Paris a été... ne s'est jamais posé la question s'il fallait séparer hommes et femmes lorsque les unes et les autres venaient écouter par exemple Manitou ou Levinas ou Neher ou Eliane Amadolevi-Valency. Il n'y a jamais eu le problème de la mixité, ne s'est jamais posé au maître de l'école de Paris. Pour nous, c'était quelque chose de totalement naturel. Et ça a continué lorsque une partie de ses maîtres sont montés en Israël. Ils donnaient leur enseignement à qui le voulait, à qui se présenter sans essayer de chercher et de vérifier la longueur de leur frange ou de vérifier la grandeur de leur kippa.
Donc, c'est-à-dire qu'on peut dire d'une certaine manière que l'école de Paris a été précurseur dans cet égalitarisme de entre la place de l'homme et de la femme
dans le
judaïsme, à la fois au niveau de l'étude, mais au niveau des pratiques. J'ai des images et des photos en tête de l'école d'Orsay, où on voit justement à l'œuvre, et c'est ce que peut-être aussi les EI, par la suite, ont voulu continuer à reproduire et transmettre. Mais malgré tout, dans un monde où on a besoin de voix qui parlent à la fois pour le monde israélien, le monde américain, Leibovitch s'est positionné réellement par cette audace de la méta-halakha en disant qu'il est possible de changer les choses et qu'on arrivera bientôt, en tout cas nous l'espérons, à une égalité de droit et de place pour les hommes et les femmes au sein du judaïsme, David Bannon.
Oui, oui, on arrivera à une égalité. Mais je voulais vous dire que ça s'est passé, comme vous le rappelez maintenant, à l'école de Paris, par rapport au maître qui enseignait à qui le voulait. Mais en Israël, ça a été un peu plus difficile, notamment avec Nechama Leibovitch, qui, elle, a dû se battre pour se faire sa place dans un monde qui était un monde complètement masculin. Et donc, finalement, elle a été reconnue comme un maître, mais elle a dû beaucoup se battre.
C'était il y a 50 ans et depuis, nous avons la chance d'une évolution, justement, qui est cette innovation que vous appelez de vos voeux, en tout cas dans ce livre, et qui était qui est le thème de la fête de Shavuot.
Oui, c'est le thème de la fête de Shavuot, mais je voudrais, moi, introduire une idée qui m'est venue dernièrement, parce que je réfléchis beaucoup à ce qui se passe en Israël, et à ce qui se passe en Israël, il y a des blocages au sein de la société israélienne. Il y a un non-dialogue ou bien un dialogue de sourds totalement entre ce qu'on appelle les religieux et les laïcs. Et il faudrait, d'ailleurs les femmes aussi doivent jouer leur rôle là-dedans, il faudrait réfléchir aux conditions de possibilité de ce dialogue entre laïcs et religieux. Et j'ai pensé dernièrement, je me disais, ben peut-être qu'il faudrait introduire ce que la halakha appelle ta'anit dibour, c'est-à-dire un jeûne de la parole, pour essayer justement de s'écouter. Et c'est le thème de Shavuot, c'est le fait de écouter ce qui nous vient du Très-Haut.
Merci David Bannon pour cette conversation qui ouvre des pistes de réflexion, mais je crois aussi d'action pour le futur. Je rappelle le titre de votre excellent ouvrage « Judaïsme et modernité » sous-titré « Confrontation et interlocution » paru aux éditions Hermann, un livre où sont encore développés de très nombreux autres thèmes passionnants, la traduction, la langue hébraïque, la science et l'éthique, le temps dans le judaïsme, ainsi qu'une approche renouvelée de penseurs et philosophes du judaïsme, et une interrogation qui parcourt tout le livre, l'importance de la circoncision, qui conclut d'ailleurs l'ouvrage dans une étude sur Jacques Derrida, un livre qui donne au mot « modernité » toute sa richesse et sa complexité, et qui, comme nous en avons montré un aspect aujourd'hui, est sans doute un outil de réflexion qui permettra de faire bouger les lignes. Je rappelle donc aussi le grand congrès des filles de Rachi, qui aura lieu à Troyes les 16, 17 et 18 juin prochains. Je vous invite à y aller nombreux. Je suis sûr que ce sera un événement particulièrement enthousiasmant. Vous trouverez tous les détails sur le site de l'émission. Merci encore David Bannon.
Merci à vous.
C'était Talmudique, une émission de Françoise Anne Ménager et Marc-Alain Waknin. À la prise de son aujourd'hui, Jean-Michel Bernot. À la réalisation, comme d'habitude, Dany Journaud. Vous retrouverez toutes les informations concernant notre invité et le congrès des filles de Rachid sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bonne fête de Shavuot, bonne fête de Pentecôte, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.